Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de LUM et de ses partenaires. En novembre 2022, l'entreprise américaine OpenAI lançait son premier grand modèle de langage. Dit comme ça ne vous dit rien, et pourtant vous le connaissez, mais sous un autre nom, ChatGPT. En seulement 3 mois, ce SIAG, système d'intelligence artificielle générative, comptabilisait plus de 100 millions d'utilisateurs. Un an seulement après sa mise à disposition du grand public, plus de la moitié des Français, selon un sondage Ipsos, disaient connaître et comprendre ChatGPT, un pourcentage montant à plus de 70% chez les moins de 35 ans et à plus de 80% chez les cadres. Parmi eux, 40% affirmaient s'en servir au moins une fois par semaine. Alors pourquoi utilise-t-on ChatGPT ? Pour de l'aide à la rédaction de notes, de courriers, d'appels à projets dans la recherche, pourquoi pas? Pour des conseils ou de l'aide, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle? Pour générer des images, et si vous avez des enfants, peut-être avez-vous déjà surpris l'un d'eux en plein exercice d'esclavagisme digital. Bref, ChatGPT n'a pas mis longtemps à se faire une place au soleil. Mais qui dit soleil dit ombre. Et la controverse fut à la hauteur de l'engouement. Dès janvier 2023, les services de la ville de New York interdisaient ChatGPT dans les établissements scolaires, suivis bientôt par Sciences Po Paris. En Italie, la CNIL locale a vite reproché au chatbot de ne pas respecter le RGPD. À Montpellier, la mairie en a également interdit l'usage à ses agents et prestataires au motif de protéger la confidentialité des données. Alors, allons-nous travailler avec ou malgré l'IA? C'est les questions que des chercheurs et chercheuses de Montpellier Research in Management se sont posées face à ce qu'ils nomment un tsunami. Ils ont lancé dès le début de l'année 2023 une étude Delphi, nous y reviendrons, sur les systèmes d'intelligence artificielle générative dans l'enseignement supérieur. Quels les risques controversés donc et les scénarios contradictoires? Comme vous allez le voir, il en ressort que cette IA n'est pas générative que de textes ou d'images, mais aussi et peut-être de fractures. Avec nous dans le studio, Florence Rodin et Saloise Gouli. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science.
Merci.
Donc vous avez réalisé cette étude avec Bernard Faléry qui n'a pas pu être avec nous mais on le salue. Cette émission, elle s'inscrit dans le cadre de la publication du nouveau magazine LUM, le numéro 22, intitulé Portrait d'IA, consultable sur le site internet de l'UM. On vous mettra le lien, disponible gratuitement dans de nombreux points de distribution dans la ville et à Divergence FM bien sûr. Elle est intelligente, mais pas artificielle. À mes côtés pour mener cette interview, Aline Perriot.
J'avais peur de l'inverse. Bonjour.
J'ai hésité. En seconde partie d'émission, nous vous faisons voir des étincelles au magasin de physique et de métallurgie. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors, pour commencer, on peut sans doute revenir sur le contexte dans lequel donc s'inscrit votre étude. Je l'ai dit en introduction, ChatGPT arrive fin novembre 2022. Dès décembre 2023, on assiste à ce que vous avez nommé un tsunami dans la société civile, dans la communauté scientifique aussi, on l'imagine. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à déclencher cette étude, Saloise Gouli?
Alors oui, effectivement, dès l'arrivée de ce SIAG notamment, on a constaté par rapport à l'utilisation et à l'usage que les devoirs qu'on donnait, les travaux d'étudiants, étaient à la fois proches de la perfection, mais un peu trop, dans le sens où on ne retrouvait pas cet œil humain dans le travail qui était demandé à rendre. Et puis, demander honnêtement aux étudiants la façon dont ils avaient utilisé les outils pour faire leurs travaux qui étaient demandés. Et puis, le constat est arrivé. Madame, on a un nouvel outil, ça s'appelle ChatGPT. Et puis, il permet de reprendre un petit peu ce qu'on a vu en cours et parfois bien au-delà. Et donc, est arrivé ce questionnement. Alors forcément, qu'est-ce qu'on va en faire et comment on doit l'utiliser et la manière dont on doit l'utiliser?
Alors pour répondre à cette question, vous avez utilisé, donc avec Bernard Faléry aussi, ce qu'on appelle la méthode Delphi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Florence Rodin, ce que c'est que cette méthode?
Oui, avec plaisir. Donc, c'est une méthode intéressante dans le sens où elle est à la fois qualitative et quantitative. On interroge des experts dans le but de trouver un consensus. Nous, on a utilisé la méthode Delphi argumentaire, donc où chacun doit argumenter. C'est un peu une technique d'intelligence collective. Et ce qui est, la première fois qu'elle a été utilisée, c'était par exemple pour le débarquement de 44, pour savoir où on allait débarquer et comment. Et donc, on mobilise des experts. Et ces experts doivent se mettre d'accord. Mais plutôt que de mettre tous ces experts dans une salle et ils doivent tous discuter ensemble, ils le font. Donc, la méthode est très... très structuré et chacun est dans son coin, lit les questions, prend position, c'est anonyme, donc il ne sait pas ce que les autres ont dit. Et donc ce qui est intéressant par rapport au fait, quand tout le monde est dans une salle, on peut subir des influences les uns des autres. Et il y a des gens qui vont avoir plus de charisme, plus de force, et puis d'autres qui vont être plus réservés. Et donc là, les experts vont vraiment réfléchir tranquillement, sans subir l'influence des autres. Et donc on va éliminer certains biais liés aux influences.
Alors, ce panel d'expertes et d'experts, vous en avez sélectionné 40, c'est pas rien. Comment vous les avez sélectionnés? Sur quels critères? Comment vous avez fait votre petit marché?
Alors, petit marché. Petit marché, mais plutôt, je vais utiliser un petit peu un mot un peu scientifique, ce qu'on appelle une revue de la littérature. Qu'est-ce que c'est, une revue de la littérature? Eh bien, on regarde un petit peu l'éventail des écrits qui ont été faits et on est allé chercher avec Florence, avec Bernard, un petit peu sur tous les types d'écrits, que ce soit des écrits scientifiques dans des revues scientifiques, mais également des écrits dans la presse généraliste. Et puis on a identifié des auteurs phares qui ont écrit énormément, mais aussi où les écrits étaient très porteurs et où ça questionnait et qui rejoignait aussi nos questionnements.
Et pas que des universitaires, je crois, c'est juste, ça ?
Oui, tout à fait. Donc effectivement, on a parmi le panel d'experts que nous avons sélectionné, que nous avons sollicité plutôt, parce qu'ils nous ont fait aussi l'honneur de bien vouloir participer à notre étude et à répondre à nos propositions. Et donc effectivement, sur la base des différents écrits qu'ils ont pu, publier, nous les avons contactés et nous leur avons demandé s'ils étaient intéressés à répondre aux propositions de notre étude.
Vous avez essuyé quelques refus ou pas du tout ?
C'est pas des refus, je dirais, parce que en fait, la méthode Delphi, c'est un engagement. Et donc, je dirais pas que c'est un refus parce que il y a un engouement fort. En plus, on était en période où l'outil se lançait, mais plutôt comme c'est un engagement, il y a trois phases dans la méthode Delphi. Donc forcément, c'est engageant. Et puis, à partir du moment où l'expert s'engage, il sait qu'il s'engage pour les trois phases de l'étude.
J'ajoute qu'il n'y en a que quatre qui ne sont pas allés jusqu'au bout, sur D'accord. ceux qui nous ont dit oui au départ.
Alors, on va commencer par le premier tour de cette enquête Delphi, donc qui consiste à proposer à vos expertes et experts une grille de propositions, donc 20 propositions exactement. Comment vous les avez construites, ces propositions, et à partir de quoi, Florence Rodin ?
Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Saloua. C'est vraiment, on est parti de la littérature. Ça ne vient pas de nous, parce que... C'est toujours difficile d'enlever les biais, mais on a essayé au maximum de faire une revue de littérature la plus large possible, la plus exhaustive possible, en sachant que sur le sujet, c'est très difficile d'être exhaustif, mais et dans toutes les disciplines. Donc, on a vraiment essayé d'être pluridisciplinaire. Et à partir de là, on a vraiment essayé de regarder ce qui se disait au maximum sur le sujet et de faire nos propositions sur la base de ce qui était dit dans la littérature, en essayant, je rajoute parce que c'est extrêmement important en sciences sociales, mais d'essayer de limiter au maximum notre subjectivité. C'est très difficile parce qu'on ne peut pas ne pas avoir d'opinion.
Alors, avant de revenir justement sur ces propositions, on va continuer de détailler un peu cette méthode, elle est intéressante. Donc, les experts et expertes, ils reçoivent ces 20 propositions, ils indiquent s'ils sont d'accord ou pas d'accord, et ils ont la possibilité d'ajouter des commentaires. Et vous nous avez dit un peu off que finalement, les commentaires, ils étaient presque aussi intéressants que le d'accord, pas d'accord des propositions. Alors, pourquoi ?
Alors, intéressant parce que c'était très riche, avec... parfois des divergences, des convergences des éléments qui venaient aussi enrichir des choses sur lesquelles nous avons réfléchi mais que nous n'avons pas pensé de cette façon. Donc je reviens un peu à ce qu'a dit Florence Rodin, effectivement une intelligence collective mais pas artificielle parce qu'effectivement là on est dans une réflexion d'experts qui connaissent très bien le sujet. Moi, j'ai la chance d'être aussi entourée de deux experts, Bernard Faleri et Florence Rodin, parce que j'étais un petit peu novice sur le sujet, donc je découvrais. Et donc, c'est aussi de cette façon que... on a pu avoir un enrichissement très fort sur lequel on est encore en train de travailler. C'est parce que les propositions nous ont, enfin, les retours des experts nous ont permis pour la suite de la méthode Delphi d'enrichir à la fois la dernière phase et puis de dégager, on en parlera tout à l'heure, ces scénarios qui font partie des résultats de notre étude.
Et oui, parce qu'il y avait des gens qui râlaient, je crois, c'est ça?
C'est-à-dire
que dans les commentaires, il y avait des gens qui râlaient sur vos propositions.
Oui, oui, oui. On a eu plein de, effectivement, onomatopées, etc. Oui, si on les avait eu en face de nous, effectivement, ça aurait été très houleux, je pense. Et oui, effectivement, ça se ressentait dans les écrits, dans les retours des experts.
Peut-être aussi parce qu'on a, dans les propositions, on était obligé de formuler de façon assez affirmative. Et parfois, les experts ou les universitaires, ils aiment bien s'écharper sur un mot, ils aiment regarder la définition du mot. Donc chacun ne met pas le même sens derrière chaque mot. Donc c'était des fois, on avait des paragraphes entiers pour dire, mais non, vous pouvez pas dire ça. Ou moi, j'entends ce mot dans ce sens-là, mais l'autre expert va l'entendre dans un autre sens. Et après, à nous de faire un énorme travail derrière d'analyse pour mettre tout ça à plat.
Et parce que les experts n'étaient pas que des universitaires.
Oui,
c'est pour ça aussi.
Et c'est ça la richesse.
Exactement.
Mais justement, du coup, sur le deuxième tour de cette enquête Delphi, vous envoyez les propositions et les réponses, mais aussi chaque expert reçoit les réponses des autres experts. Quel but ça a, ça, dans la construction de l'enquête?
Alors, je veux bien répondre, et puis après, tu compléteras. Donc, je précise juste que chaque personne va recevoir ce que les autres ont dit, mais en moyenne. Donc, on va avoir, sur une réponse, il y a tant de personnes qui sont d'accord, tant de personnes qui ne sont pas d'accord. Donc, on garde l'anonymat. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que la personne, elle dit, vous avez répondu ça. On lui dit ce qu'elle a répondu. On dit, regardez ce que les autres ont répondu. Et là, ils s'interrogent, ils disent « Ah, zut !» Et on leur demande « Est-ce que vous conservez votre opinion ?» Et si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ?
Il y en a qui changent d'avis ?
Oui, il y en a qui changent d'avis. À la marge, alors c'est rare qu'ils passent de complètement... Enfin, qu'ils changent complètement d'opinion, mais par contre, ils vont pouvoir ajuster. Et c'est ce qui se passe, en fait, quand on fait une réunion d'intelligence collective. Forcément, il y a des évolutions. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la personne, elle prend son temps, parce qu'on va lui laisser quand même le temps de répondre. Elle va avoir... quelques semaines pour se poser, réfléchir, relire. Et oui, bien sûr, il y a des évolutions. Et c'est, de toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Nos opinions, elles évoluent, par exemple, avec le travail qu'on fait à la radio. Et donc, c'est en fonction de tout ce qu'on enregistre, toutes les connaissances qu'on acquiert et les opinions des autres, on évolue. Et donc, c'est une façon d'évoluer de façon douce. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on va vers un consensus. Et c'est ça que permet la méthode.
Alors, on va rentrer un petit peu justement avant d'aller dans ce troisième tour où vous avez proposé des scénarios. On va revenir un peu sur les propositions. Et on va aussi préciser, donc les experts ont dû classer sur le deuxième tour, ils donnent une note d'importance aux propositions. Donc à l'issue du deuxième tour, ils sont tombés d'accord sur 7 propositions qu'ils jugent importantes. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles, Florence Rodin?
Oui, avec plaisir. Alors, la première, c'est que les SIAG, donc de style ChatGPT, vont définir de nouveaux modes d'apprentissage.
Ça, tout le monde est d'accord.
Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire que les programmes de formation des élèves et des étudiants sont à redéfinir au plus vite.
Donc, il faut former les gens à l'intelligence artificielle.
Mais, et pas que les étudiants, mais aussi les enseignants. Des temps et des budgets de formation des personnels, j'y arrive, doivent être définis au plus vite. Mais on le voit depuis la méthode que c'est déjà arrivé. Il faut redéfinir les programmes sur les savoirs fondamentaux, les français, les maths, etc. Dans l'entraînement des SIAG, il faut modérer les stéréotypes culturels des concepteurs. On sait par exemple que c'est souvent des hommes, une majorité d'hommes. Stopper une recherche n'a pas de sens. Personne ne peut décider ce qu'il ne faut pas chercher. Donc c'était dans le sens de stopper ou ralentir la recherche sur l'intelligence artificielle.
Je reviens deux secondes parce que c'était intéressant sur ce que vous dites sur les stéréotypes. Quand vous dites c'est beaucoup des hommes, c'est des hommes qui conçoivent les intelligences artificielles. Donc les intelligences artificielles ont des stéréotypes d'hommes, si on devait résumer, c'est ça?
On peut le dire comme ça.
Ok.
Et enfin, la dernière sur laquelle ils sont tous d'accord, dans la société, mais aussi dans l'université, on va voir s'accentuer une fracture entre une élite formée par des sources exigeantes de qualité et une majorité nourrie d'informations plausibles, mais totalement indifférentes à la vérité. Au mieux, une soupe de fadaises, au pire du bullshit ou des deepfakes.
Et ça, c'est ce qui vous met le plus à l'oreille, c'est inquiétant.
Ah oui, personnellement et au sein du groupe, oui, et puis au sein des experts, oui, c'est quelque chose qui nous a fortement questionnés, interrogés, inquiétés.
Alors, ils sont aussi montrés en désaccord donc sur 6 propositions, dont 3 qui sont jugées importantes. Il y en a une qui est la question de la créativité. Est-ce que l'IA est créative ? Ça, c'est un sujet de controverse pour vous, Florence Rodin ?
Oui, c'est un sujet de controverse. Et là, il y a eu la difficulté, parce qu'on n'était pas tous ensemble, d'expliquer la différence entre création et créativité. Et puis, on n'a pas la place pour montrer quelle est notre définition. Est-ce que l'IA, est-ce qu'elle crée ? Ou est-ce qu'elle est créative ? Et là, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'une IA générative, si on lui demande de faire quelque chose de nouveau, elle va le faire à partir d'une base de connaissances. J'écoutais France Musique, par exemple, ce matin, et on parlait, c'est bientôt la Toussaint, on parlait du Requiem de Mozart. On sait que Mozart est mort avant d'avoir fini d'écrire le Requiem. Et la personne qui était invitée disait que, voilà, il y a d'autres compositeurs qui ont essayé de terminer l'œuvre, mais ça n'a jamais rien donné de probant, parce qu'on ne retrouve pas la patte de Mozart. Et en fait, si on demande, aujourd'hui, on pourrait demander à une intelligence artificielle de finir le Requiem de Mozart, mais si elle le faisait, ça serait sur la base de tout ce qu'elle a enregistré de ce qu'on connaît de Mozart, mais ça serait de la création et pas de la créativité. Seul Mozart pouvait avoir cette créativité. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on fait la... Et donc, nous, on a discuté, on pense que, voilà, qu'il s'agit de création et non pas de créativité. La créativité, pour l'instant, elle reste l'apanage de l'homme. Bon, ça, on n'a pas pu l'expliquer de vive voix avec nos experts, et c'est un sujet peut-être, il y a eu des problèmes de définition sur lesquels on n'était pas tout à fait d'accord, mais voilà nous la différence.
Ça donne un aperçu en tout cas des débats auxquels ça a donné lieu, oui, ça donne.
Oui,
absolument.
Alors, donc pour le troisième tour, donc le tour final, vous avez récupéré toutes ces propositions, et à partir de ça, donc vous avez construit des scénarios. Comment ça marche?
Eh bien, on est allé chercher effectivement ces fameux retours d'experts qui nous ont permis de dresser un petit peu et de prendre un peu la température, j'ai envie de dire, du ressenti des experts sur la base des propositions qui ont été faites, par rapport aux ajustements également qui ont été faits. Et à partir de là, on a essayé, sur les questionnements qui ont été posés, de voir qu'est-ce qui se dégage finalement de ce qui se passe dans la société, de ce qui se passe dans la tête des chercheurs et dans la tête d'un citoyen lambda aussi. Donc en fait, le questionnement, c'était ça. Ah ben, vous l'avez annoncé en début, est-ce qu'on va travailler avec l'IA ou malgré l'IA ? Et puis voilà, donc on a commencé à se dire, alors, sur tout ce qui a été... Alors, tout en essayant de garder la subjectivité comme ça a été précisé, on a regardé un petit peu tout ce qui a été, tout ce qui nous a été retourné. On a fait un petit peu un état des lieux et la façon dont ont été exprimés les différents éléments, on a essayé de dégager sur la base de sans oublier aussi et sans perdre de vue les différentes propositions, parce que c'est comme ça qu'on garde le cap, j'ai envie de dire. Et ça nous a permis donc de faire ressortir 3 scénarios probable.
Alors justement, on va y venir, ces scénarios, donc c'est évolution, révolution, fracture. Saloise Gouli, toujours, est-ce que vous pouvez nous les décrire, ces 3 scénarios ?
Alors, le premier scénario, effectivement, que nous avons intitulé évolution aussi régulation progressive, c'est l'idée selon laquelle les SIAG sont perçus comme de nouveaux outils qui nécessitent des régulations progressives. Et donc, c'est jugé nécessaire pour encadrer leur utilisation par les concepteurs et les utilisateurs. Et on a vu également sur les différents retours et sur la base des propositions que nous avons faites qu'il y avait des nouveaux modes d'apprentissage qui nécessitent d'inclure finalement l'amélioration, pas de la créativité, mais de la création artificielle et également d'être critique sur les réponses générées par l'IA. Et donc, les menaces identifiées vont comprendre la réduction de la mémorisation et les informations plausibles qui parfois peuvent être fausses également. Donc en fait, il y a ça à intégrer sur le premier scénario que nous avons dégagé. Ensuite, le second scénario, nous l'avons intitulé « Révolution ». et législation nécessaire. Législation nécessaire, c'est très important parce qu'effectivement, on est dans une nouvelle ère. C'est l'ère technologique qui nécessite des législations très strictes, non seulement pour encadrer, mais aussi pour sécuriser les informations. Et donc, on est sur un nouveau rapport à l'information et à la connaissance qui vont être façonnés finalement par une forme d'hyperconnexion et aussi une surcharge d'informations. Et donc, tout cela, ça impose aussi de redéfinir à la fois les rapports sociaux et éducatifs. Et enfin, sur ce même scénario, la législation devra fixer des standards éthiques pour l'utilisation des SIAG.
Et on arrive donc sur le troisième scénario.
Le troisième scénario, je vais dire quelques mots, mais je sais que c'est un point très important pour Florence Rodin. C'est ce qu'on a intitulé et appelé la fracturation, et qui est un constat aussi collectif. C'est l'idée selon laquelle les SIAG vont amplifier aussi les inégalités, les fractures sociales. Et ça pourrait aussi entraîner des contestations technologiques et aussi des actions collectives. Et donc là, les experts envisagent une fracture entre une élite capable de maîtriser les technologies et une majorité qui vont être dépendantes des informations qui peuvent être biaisées. Et donc, on parle de fracture éthique et sociale qui nécessite des mouvements qui vont tendre, on espère, vers une forme de déconnexion, voire une sobriété numérique.
Alors les experts, là aussi, Florence Rodin, on va y revenir à la fracturation, mais ils ont dû se prononcer sur ces trois scénarios, d'accord ou pas d'accord. Lequel des scénarios A, B et C est arrivé en tête?
Alors ça dépend s'ils considèrent que c'est probable ou pas probable, que c'est souhaitable ou pas souhaitable. Par exemple, le troisième sur la fracturation, ils disent que c'est probable mais que c'est pas souhaitable, ce qui me rassure, parce que personne ne souhaite.
Mais c'est probable.
Mais c'est probable, c'est ça qui nous a inquiétés. Mais bon, nous, on le pensait aussi, avec notre vision d'enseignant. Celui qui trouve tous le plus souhaitable, c'est le premier. Mais pas forcément le plus probable. Tout le monde souhaite une évolution. Personne n'a envie d'une révolution et personne n'a envie d'une fracturation. Mais entre le souhait et la réalité, malheureusement, des fois, il y a des écarts. Je peux revenir sur le troisième scénario ?
Oui, bien sûr.
C'est ça qu'on a voulu mettre en avant aussi dans le journal LUM, c'est le fait que... Déjà, quand on a fait notre proposition 16 sur le fait qu'à l'université, il risquait d'y avoir des fracturations, on a été étonnés de voir que tout le monde est d'accord avec ça, même ceux qui ne sont pas d'ailleurs dans le milieu universitaire. Mmh. Et nous qui sommes dans le milieu universitaire, on le voit. Et en fait, pour le dire de façon un peu brute, c'est pas comme ça qu'on l'a formulé, mais c'est comme ça que je le dirais, c'est qu'il y aura une minorité qui est constituée de l'élite qui va être augmentée par l'IA, et une majorité, la France d'en bas, qui va être diminuée par l'IA. Je le formule de façon brute, mais c'est ça ma grande crainte. Hein, et c'est ça, je trouve, qui est le plus flagrant dans notre étude. Et ce qui est source d'énormes inquiétudes pour moi en tant qu'enseignante, qui est la foi dans le service public et qui est la crainte de voir cette différence entre les niveaux sociaux encore plus exacerbée qu'elle ne l'est déjà. On sait depuis les travaux de Bourdieu que l'ascenseur social en France il est difficile, que c'est une reproduction des élites. Et moi, j'ai peur que l'IA renforce ça de façon mais vive. C'est vraiment une très, très grande inquiétude pour moi. Et pour certains des experts. Bon, après, je précise qu'il nous reste... On n'a pas encore analysé l'ensemble des commentaires et je vais être très attentive à tout ce qu'ils disent sur le sujet.
Alors, on arrive à la fin de l'émission. Je vais juste on va essayer de terminer sur une note un tout petit peu optimiste, même si ça fait très peur. Saloise Goulier, est-ce qu'il existe des moyens de prévenir justement cette fracture?
Alors, des moyens pour prévenir cette fracture, je ne pense pas qu'il en existe réellement. J'ai envie de dire que... Finalement, ça nous permet de réfléchir et de se dire qu'il faudrait revenir peut-être aux fondamentaux qui sont les connaissances. Et les connaissances, c'est lire. Et ça, justement, c'est ce qui permet d'enrichir cette créativité que l'intelligence artificielle n'a pas, malgré l'entraînement qu'elle peut avoir de par son utilisation. L'œil humain reste l'œil humain. Et je pense que, de toute façon, pour utiliser... un outil, on a besoin derrière d'un homme, et forcément un homme complet, avec toutes ses émotions, sa créativité. Et c'est comme ça que on va pouvoir justement avancer, que ce soit dans la société, que ce soit sur des recherches de manière générale. Mais quoi qu'il en soit, je pense réellement qu'on ne peut pas anticiper. Les fractures, elles arrivent, on ne les contrôle pas. L'idée c'est de cette étude, c'est d'essayer d'anticiper finalement la façon dont on peut intégrer ces fameux SIAG.
Merci beaucoup. Le mot de la fin, Florence Rodin, on n'a vraiment plus que 20 secondes.
Dix. Ah, c'est terrible. Alors je renvoie au discours du prix Nobel d'économie qui a parlé il y a quelques jours et qui parlait de la prospérité partagée. Et qui disait que finalement, les innovations technologiques en elles-mêmes ne permettent pas la prospérité. Ce qui permet la prospérité, c'est la compréhension des luttes de pouvoir. Et que je donne juste vite deux exemples. C'est au Moyen-Âge, quand on invente les moulins à vent, ça a profité aux propriétaires des moulins. Et ça n'a pas du tout profité aux paysans, parce qu'il y avait des rapports de force. Et pareil aux États-Unis, quand on a inventé la machine pour améliorer la production du coton, on a pu augmenter la productivité par 10, par 100, par 1000. Au final, les esclaves, ils étaient toujours aussi maltraités, voire plus. Et donc, il montre ce prix Nobel, c'était il y a quelques jours qu'il a donné ce discours, qu'au final, c'est les syndicats et c'est les luttes de pouvoir qui ont permis que la prospérité soit partagée. Et là, j'ai envie de dire, je reviens à l'IA et à l'IA générative, on nous promet de la productivité, etc. Cette productivité, elle permettra une prospérité partagée si on a bien conscience que derrière, c'est un problème pluridisciplinaire et surtout politique. Ne soyons pas uniquement technophiles et n'ayons pas une confiance aveugle en la technologie. Il y a des luttes de pouvoir derrière et il faut revenir à la politique, c'est fondamental.
Absolument.
Salwa Azouli, Florence Rodin, merci beaucoup, c'était passionnant.
Merci.
Merci à vous.
Aline, très vite, on enchaîne sur le reportage. Où est-ce que tu nous emmènes ?
Alors très vite, on va sur le campus Triolet pour visiter le magasin de physique et de métallurgie en compagnie de son directeur Thierry Martiré. Ici, on découpe en rondins, en plaques, en tubes, on fraise, on soude, on sable et on trouve aussi toutes les vis et les boulons possibles.
Le magasin de physique qui approvisionne les ateliers en matière et en visserie, outillage, etc. Et qui met aussi à disposition des moyens pour les techniciens de salle de TP ou ceux qui n'ont pas forcément un atelier pour faire de la soudure, donc ils peuvent venir le faire ici. On fournit en fait de la matière découpée à façon, c'est-à-dire que si vous avez besoin de 5 cm carrés de métal, on peut vous le découper et vous le fournir, ce qui n'est pas facile à trouver par d'autres moyens. On fait aussi de la visserie, donc si vous avez besoin de un boulon, un écrou, on peut vous le fournir.
Vous avez quand même un grand local et il y a plein de machines dans ce local. Est-ce que vous pouvez nous en décrire quelques-unes et nous dire à quoi elles servent ?
Il y a pas mal de machines, effectivement. Donc on a tous les moyens nécessaires pour faire de la découpe de matériaux en rondins, en plaques, en tubes. C'est des machines qui ont un certain âge, mais qui sont encore parfaitement fonctionnelles et qui le seront encore pour très longtemps. Donc ici, vous avez une scie à ruban qui permet de découper des matériaux en plaques. Là, on a une cisaille hydraulique qui permet aussi de faire des découpes en plaques, mais avec des matériaux qui font jusqu'à 5 mm d'épaisseur. La doyenne de l'université qui est là. Alors celle-là, c'est notre scie qui sert à débiter tout ce qui est les rondins que vous voyez ici, donc d'aluminium ou les carrés.
Vous dites la doyenne, elle a quel âge cette machine ?
Elle a quel âge ? Quand je suis arrivé en 98, elle était déjà là. D'après mes collègues, elle aurait plus de 50 ans.
Il y a une machine bleue avec... On dirait des emplacements pour mettre les bras à l'intérieur.
Cette machine-là, c'est une sableuse, en fait. Ça permet d'enlever la rouille ou de faire de la finition, en fait, sur des pièces métal. Donc, en fait, vous passez les mains là-dedans. À l'intérieur, il y a une buse qui projette du sable à très grande vitesse. Donc, c'est des gants très épais, parce que si vous mettez ça sur les doigts, vous n'aurez plus de doigts. Et qui permet de dérouiller les pièces, de les nettoyer, d'enlever de la peinture... etc. Par exemple, avant de faire de la soudure, si votre pièce elle est peinte, il faut la décaper et ça permet de le faire assez facilement plutôt que de poncer à la main.
Et alors, qui est-ce qui vient vous demander de ce genre de découpe, par exemple ?
Nos clients, entre guillemets, sont tous les laboratoires. C'est une plateforme qui est ouverte à tous les laboratoires de l'UM. Les gens viennent fabriquer des supports, des choses qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne peuvent pas forcément acheter ailleurs. Et donc, ils viennent les souder et les usiner ici.
Vous proposez du sur-mesure, en quelque sorte?
Oui. Tout ce qui est là peut être découpé aux dimensions qui sont demandées par les utilisateurs. Et puis après, s'ils ont de la soudure à faire, on a pas mal de matériel qui permettent de faire de la soudure avec donc des baguettes, du MIG, du TIG, etc.
Et ça, c'est les utilisateurs qui viennent le faire ou ils viennent vous le demander et c'est vous qui le faites pour eux?
C'est surtout les utilisateurs qui viennent le faire. En général, nos utilisateurs sont les techniciens des ateliers de mécanique, donc des gens qui sont parfaitement formés à ces techniques. C'est ouvert aux gens qui savent manipuler ces machines, parce qu'il y en a un certain nombre ici où le risque de coupure, de brûlure, etc. est pas négligeable. Là, par exemple, vous avez le dernier qu'on a acheté qui, lui, est capable de faire toutes les techniques de soudure qu'on connaît aujourd'hui. Là, vous avez un chalumeau pour la découpe oxyacétylène. Ici, vous avez une machine de découpe à plasma qui est à commande numérique, donc en fait, on peut faire tout un tas de formes qu'on ne pourrait pas faire autrement à la main. C'est pas facile de faire de la découpe dans de l'acier de 5 mm, par exemple.
Voilà. Et j'ai vu que vous aviez des plaques encore plus épaisses. Là, vous avez une collection de plaques de métal.
Oui, alors ici, c'est donc la partie plaque d'aluminium. Il y a quelques plaques de plastique. La majorité des autres plaques sont là-bas. Jusqu'à... Alors, celle-ci doit faire 20 mm à peu près. Donc, c'est pour faire de la matière brute qui nécessite d'être réusinée après. Donc ça, on la découpe et dans les ateliers, après, il la passe à la fraiseuse. C'est un endroit où on a un énorme stock de matières de diverses et variées. Donc on a de l'acier, de l'aluminium pliable, l'aluminium usinable, des plastiques pliables, des plastiques usinables comme le pomme que vous avez là, ce gros truc blanc, qui est un plastique qu'on peut usiner assez facilement. Toutes les armoires que vous voyez tout le long, là, c'est que de la visserie. Donc si vous avez besoin, je sais pas, d'une vis de 5 par 25 à tête fraisée, on en a à peu près toutes les formes qui sont utilisées couramment, on va dire. Après, s'il faut des formes un peu particulières, on peut les commander sous quelques jours.
Merci beaucoup, Aline. Pas d'invité de dernière minute cette semaine, mais j'en profite très vite pour vous parler d'une exposition originale. C'est sur le quai Mayol à 7, ça se passe sur un voilier. Cabine de curiosité, c'est le nom de cette expo, vous propose de monter à bord du Compass pour un voyage dans le temps et l'espace à la découverte de l'histoire des sciences. Géologie, zoologie, botanique, minéralogie, vous marcherez sur les pas des grands explorateurs et des professeurs grâce à des objets issus de toutes les collections patrimoniales de l'UM, mais aussi du LIRM et de Marbec. Cette exposition, elle est proposée par l'association The Lost Compass, et le service du patrimoine historique de l'Université de Montpellier. Elle est soutenue par la ville de Sète et le port sud de France. L'entrée coûte 5 euros, elle est gratuite pour les étudiants et les personnels de l'UM. Allez-y, c'est jusqu'au 2 novembre encore. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, c'est les vacances, mais la semaine suivante. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
La version complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.